Et à 6h45 minutes, comme chaque jour, les enjeux internationaux. Thierry Garcin, bonjour Thierry.
Bonjour Marc Gouinchet. Et donc les énergies. Alors évidemment, les énergies sont au cœur des relations internationales. On va le voir dans un instant avec l'invité d'Éric Laurent, Nicolas Sarkis, directeur du Centre arabe d'études pétrolières. Au cœur des relations internationales, ne serait-ce que pour les énergies fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole, l'estimation des réserves, qu'elles soient prouvées, probables, possibles, et bien sûr la production et la consommation. Les énergies concernent directement les États, les rapports de force régionaux, l'exercice de la puissance. Ces énergies suscitent des convoitises sur les territoires. Les producteurs peuvent dicter leurs lois. On pense tout de suite aux deux chocs pétroliers de 73 et de 79. Le cours du baril a des effets directs sur l'économie mondiale, particulièrement aujourd'hui. L'essor des énergies renouvelables s'inscrit donc dans des compétitions désormais commerciales. Il y a la question des sanctions économiques, par exemple sur le pétrole à l'égard de l'Iran. Enfin, les routes maritimes mondiales avec leurs contraintes, le canal de Suez, le golfe arabo-persique, les fameux détroits entre la Malaisie et l'Indonésie, et puis la géopolitique des tubes, c'est-à-dire des oléoducs et des gazoducs. On voit la richesse évidemment de cette réflexion sur les énergies, sur le plan géopolitique. On revient quand même tout de suite à l'évolution importante des prix du pétrole, dans un premier temps, avec Nicolas Sarkis au micro d'Éric Laurent.
Je crois qu'aujourd'hui, comme hier, aujourd'hui, comme il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, les prix du pétrole évoluent de manière un peu, dans l'ensemble, un peu erratique. Ça monte, ça baisse, etc. Dans ces mouvements de hausse et de baisse, il y a, je crois, que deux séries de facteurs essentiels. Il y a des facteurs qu'on peut qualifier de facteurs objectifs. Il y a une espèce de lame de fond qui est là quand même, qui bouge, comme une espèce de plaque tectonique qui bouge et qui fait bouger les prix. Et qui, elle, concerne les données fondamentales concernant les ressources, les disponibilités, l'offre et puis de l'autre côté la demande. Alors ça, forcément, ça influe sur le prix, mais de manière lente et progressive. Il y a, sur ceci, vient se greffer d'autres facteurs qu'on peut qualifier un peu de facteurs conjoncturels, passagers, qui peuvent être d'ordre politique, technique, spéculatif. La spéculation joue un rôle extrêmement important. Alors, il suffit de considérer le passé, tout le passé récent. En 2008, les prix du pétrole étaient d'environ 92 à 95 dollars le baril. Et là, je parle des prix du pétrole physique, sur le marché physique, c'est-à-dire la moyenne des prix du pétrole OPEP sur le marché physique. Bon. Alors, en 2008, donc avant la grande crise financière, ils étaient de 94 dollars le baril, en fait, 2008. Ça a chuté. En 2009, c'est tombé à 60-61 dollars le baril. Bon. 2009. On arrive 2010, il remonte à 77 dollars le baril. On arrive à 2011, ils sont à 107 dollars le baril. C'est-à-dire un peu moins que le double il y a deux ans seulement. 2010-2011, c'est à peu près doublé. Bon. Depuis le début de cette année, les prix du pétrole OPEP passent de 107 dollars, aujourd'hui ils sont à 122-123 dollars le baril. C'est une augmentation de 15-16% à l'espace de 3 mois. Oui. Et par rapport à il y a 2 ans, donc c'est une augmentation de plus que le double. Bon. Alors cette nouvelle augmentation qui retient aujourd'hui l'attention, elle est due surtout à des phénomènes conjoncturels. Il y a toujours les choses qui sous-tendent ceci, les facteurs, donc, les fondamentaux, mais il y a les facteurs conjoncturels qui concernent aujourd'hui essentiellement la crise au Moyen-Orient, l'affaire de l'Iran, la Libye, etc., etc. Alors, bien sûr, la spéculation joue sur ça, c'est normal. Alors, dans la spéculation, je crois qu'il faut distinguer un peu deux genres de spéculation. Il y a la spéculation qu'on peut considérer comme tout à fait légitime et normal, c'est-à-dire parce que le pétrole est devenu un peu comme un bien, un actif, comme l'or, comme les actions de grandes sociétés, etc., que des individus ou des sociétés achètent, qu'ils mettent dans leur portefeuille comme un actif, quand ils considèrent que la valeur de cet actif va s'apprécier. Puis à côté de ça, il y a la spéculation qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus, enfin disons sauvage, des gens qui spéculent sur l'évolution des prix, non pas d'un jour à l'autre, mais parfois d'une heure à l'autre, et j'ose dire d'une seconde à l'autre. Alors ça, c'est l'affaire des grandes banques.
Mais justement, il faudrait revenir, parce que c'est un cas d'école très, très, très intéressant et très révélateur, sur 2008. Vous évoquiez effectivement donc la hausse du prix du baril. Il faut se rappeler tout de même qu'il y avait une étude qui avait été faite justement par un responsable de Goldman Sachs et qui prévoyait la hausse du prix du baril jusqu'à $200. Et au fond, on s'aperçoit comme ça rétrospectivement que cette étude préparait le terrain à une vaste spéculation justement entreprise par Goldman Sachs et d'autres établissements financiers américains qui ont acheté massivement effectivement donc des réserves, puis qui se sont retrouvés à la tête, selon les indications qu'on a eues après, à la tête de 1,1 milliard de barils. Et c'est ce qui explique cette hausse énorme des prix qui a été tirée jusqu'à $150. Et ensuite, ils ont joué également à la baisse. Donc, de quelle manière les économies mondiales, et au fond les consommateurs, peuvent-ils être victimes de ce genre de spéculation qui pèse au fond sur leur vie quotidienne et sur, même sur leur travail pour certains.
Évidemment, et c'est tout à fait ça. Parce que vous savez, enfin, Goldman Sachs, comme d'autres, on parle beaucoup de Goldman Sachs, parce que c'est une très grande banque d'affaires. Le métier de ces gens-là consiste à gagner de l'argent le plus vite possible, le plus d'argent possible. On leur confie l'argent, bien leur propre argent, etc. Ils veulent gagner de l'argent. Bon. Le monsieur ou l'équipe qui est au sein de Goldman Sachs a un jour écrit que les prix du pétrole allaient passer à $200, que c'était encore $100 ou $120. Bon, qui sait, c'est les gens, enfin, c'est pas les génies, enfin, c'est les employés qui sont là, les salariés, le niveau, faites une étude, ils essaient de faire jouer quelques paramètres, etc. Et comme quelqu'un qui lit dans une marque de café, sur une boule de cristal. Mais eux, ils font, d'un côté, ils s'appuient sur quelques faits, enfin, qui existent, c'est vrai, une certaine évolution à partir de laquelle ils extrapolent et puis ils lancent un chiffre. Alors, Goldman Sachs peut dire, on va arriver à $200. Une autre société, la Chase Manhattan, JP Morgan, va dire, non, 180, un an, 250, etc. Bon, on lance la balle. Et quand les gens, vous, moi, les lisent dans la presse, Goldman Sachs prévoit que, bien estime que les prix du pétrole vont passer à 250, ils se précipitent pour aller acheter des barils de papier, acheter en bourse. Alors forcément, ça joue dans le sens de la hausse. Et inversement, quand ils disent on s'attend à ce baisse, alors eux, ils achètent, ils vendent, c'est là qu'ils réalisent des bénéfices énormes, des bénéfices colossaux. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est un risque majeur pour l'économie mondiale, parce que finalement, la vie des gens dépend de ça, et puis ça fausse complètement les données du problème.
Mais pour évoquer l'ampleur de ces spéculations qui ne cessent de quand même de croître, quand vous évoquiez effectivement les contrats papier, il y avait des chiffres encore il y a 2 ans, et ces chiffres évidemment se sont accrus, qui indiquaient que pour 570 contrats donc papier négociés, donc qui sont des contrats uniquement spéculatifs, il y avait l'équivalent d'une seule cargaison physique réelle de pétrole. C'est quand même un décalage important et impressionnant.
Mais évidemment, pour ça il y a le marché du pétrole et le marché physique. Des pays ou des sociétés qui ont du pétrole, qui le vendent à des raffineurs pour la consommation. Ensuite, parallèlement à ça, c'est considérablement développé un marché un peu fictif, virtuel, qu'on appelle le marché des barils papier. C'est du papier. N'importe qui peut aller à la banque ou bien téléphoner à sa banque, leur dire, écoutez, achetez-moi un contrat. Maintenant, on achète un contrat. Le minimum, c'est 1000 barils. Le contrat à 1000 barils, aujourd'hui à $100, c'est à peu près 100 000 $. Bon, beaucoup de gens peuvent se le permettre, mais ils achètent, et d'ailleurs, ils ne paient même pas le prix. S'ils ont un compte, alors on retient un peu une partie de leur compte sur la marge, enfin, ça risque de baisser ou de monter de 10-20%, on retient 10 000 ou 20 000 $, etc. Donc, il y a donc, c'est devenu un peu à la portée, je dirais, un peu de tout le monde, ou presque. Alors, on achète, on vend, et puis c'est ce qui explique justement cette espèce d'inflation considérable des opérations sur le marché, donc le marché papier, qui est beaucoup autrement plus grande que sur le marché physique. Et qui a un impact sur le marché physique. Parce que les prix, d'ailleurs, qu'on lit dans la presse en général, ce n'est pas le prix du panier au PEP. Ce sont, en fait, les prix. Vous dites, à New York, c'est acculturé comme ça, à Londres, c'est acculturé comme ça, etc. Clôturé, c'est-à-dire, ça, c'est le prix d'ailleurs pour les futurs. Dans un mois, ça va être comme ça, dans 2 mois, ça va être comme ça, etc. Ce n'est pas des opérations réalisés sur le, donc, sur le marché physique.
Mais ces prix, je dirais, à la hausse tirée par la spéculation, au fond, est-ce qu'ils ne, ils ne servent pas au fond les intérêts des grandes compagnies dans la mesure où elles ont besoin probablement d'une hausse des prix du baril, ne serait-ce que pour dégager les moyens, je dirais, d'exploitation de plus en plus délicates, technologiquement de plus en plus coûteuses, dans des zones de plus en plus profondes.
C'est indéniable que les compagnies et que le monde en général a besoin, ils ont besoin de sommes colossales pour développer de nouvelles sources d'énergie.
Comme dans les années 73 d'ailleurs, où oui. Là aussi les compagnies pétrolières avaient besoin d'énormément d'argent.
Absolument. Mais avec la différence que depuis 73, on s'est rendu compte que le pétrole, qui reste la principale source d'énergie, en 1973, le pétrole était couvré à peu près la moitié des besoins énergétiques du monde. Aujourd'hui, il en couvre 33%. Dans peu de temps, dans 15-20 ans, il va couvrir le quart. Bon. Et c'est là qu'on arrive au facteur essentiel, chose fondamentale, c'est que le monde ne peut plus compter sur les énergies fossiles, surtout pas sur le pétrole. Il faut progressivement développer d'autres sources d'énergie. Et c'est là que je trouve qu'il y a un certain comportement tout à fait irrationnel dans le monde, qui est compréhensible, on comprend pourquoi c'est irrationnel. C'est-à-dire que les gouvernements savent très bien qu'il faut à tout prix développer d'autres sources d'énergie, mais ils savent en même temps que développer d'autres sources d'énergie, comme l'énergie solaire ou éolienne, qui sont des énergies propres, et inépuisables, c'est bien pour tout le monde, ça n'a absolument aucun inconvénient, etc., etc. Malgré ceci, on traîne les pieds, on ne les développe pas, parce que, pour le moment, il y a des sources d'énergie qui sont moins chères. Alors, pour tout gouvernement, surtout dans le pays démocratique, on a toujours les yeux rivés sur les élections législatives, présidentielles, etc. Il faut montrer à l'opinion qu'on s'occupe d'eux, on achète du pétrole, l'énergie à bon marché, etc. On néglige les autres sources d'énergie.
Nicolas Sarkis au micro d'Éric Laurent. Nicolas Sarkis, directeur du Centre arabe d'études pétrolières. Et bien sûr, pour télécharger l'émission le jour même, pour la réécouter durant 30 jours, franceculture.fr.
Merci Thierry Garcin et bien sûr donc franceculture.fr, vous l'avez dit, et nous vous retrouvons demain pour de nouvel épisode des Enjeux internationaux. Il est 6h57 sur France Culture.